On va reprendre la prière qu'on a déjà prise ce matin. Demandez au Saint-Esprit. On a plus besoin du Saint-Esprit que de l'air. L'air que nous respirons, c'est un signe d'une réalité dont on a encore plus besoin, c'est du Saint-Esprit. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur le repos, dans la fièvre la fraîcheur, dans les pleurs le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi, qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Alors nous continuons notre méditation. Ce matin, on a parcouru rapidement le premier testament pour nous attarder surtout à cette expression des entrailles de miséricorde du cœur de notre Dieu. On est très loin d'avoir épuisé le sujet, mais au moins on a évoqué notre Dieu comme un Dieu de tendresse, un Dieu de miséricorde, un Dieu de compassion. Cet après-midi, c'est avec Saint Luc que nous allons poursuivre. Et demain, ce sera avec Saint Jean. C'est vous dire comment nous ne faisons qu'effleurer. Mais encore faut-il le faire. Alors ce mot hébreu, rahamim, Odile pourrait prendre un tableau, nous montrer les lettres et tout le reste, c'est un mot tellement important. C'est le lieu de la femme, le lieu de la femme qui donne vie. Et c'est très mystérieux. Alors ce mot rahamim, je vais lire un petit peu Olivier Clément cette fois dans un livre récent, Espace infini de liberté, le Saint-Esprit est Marie, Théotokos, Mère de Dieu. Ce matin, je prenais un petit peu de Ratzinger, celui qui est Benoît maintenant. Alors pardon, quelquefois c'est un petit peu difficile, mais vous savez, c'est comme un concert. Demandez-moi de décrypter la musique, j'en suis incapable, mais j'aime bien entendre la musique. C'est un petit peu pareil quand on lit des choses qui, à la fois, sont tellement belles, mais quelquefois, on n'en retient que la mélodie. Mais c'est pas grave. Le tout, c'est qu'on sache que là, il y a un puits. Alors, que dit Olivier Clément? C'est un frère orthodoxe. C'est bien, quelquefois, de voir combien nous sommes proches. Donc c'est à propos de Marie, terre bienheureuse, épouse bénie de Dieu, toi qui as fait croître l'esprit, l'épi non semé, sauveur du monde. Réjouis-toi, ô terre promise, réjouis-toi, champ généreux, moisson magnificente, réjouis-toi, toi qui fleuris comme un pré luxurieux. Il s'agit donc de notre terre. Et quand nous parlons de Marie, il ne faut pas se tromper. Marie, c'est la part d'humanité qui dit oui à Dieu. Et Marie, elle est en nous. Si, parce que quelquefois, on a des sensibilités qui attrapent les boutons quand on parle de Marie. Ben, c'est la part d'humanité qui dit oui à Dieu. Voilà, c'est tout. Donc cette terre, la terre qui trouve ainsi, grâce à Marie, en elle, conscience, parole, visage, est à la fois la vie universelle et la terre des ancêtres, leur mémoire. Alors la Vierge de Częstochowa, dans l'histoire de la Pologne, la Vierge de Vladimir dans l'histoire de la Russie, celle de Tinos dans le destin de la Grèce, la Vierge noire du puits, noire comme la terre profonde devant laquelle allaient se recueillir les rois de France. Pourtant, la terre ainsi assumée n'est pas celle des idéologies réactionnaires, marqué par l'absence du principe personnel et la nostalgie fusionnelle. Et quand on parle de Dieu, on est dans un au-delà de la psychologie, on est dans un au-delà de la sociologie. Et on est dans un lieu purifiant, un lieu pacifiant. Certes, toutes ces réalités, il faut les prendre en compte, mais on ne va pas s'y enfermer et encore moins s'y enliser. Car Marie est d'abord adhésion personnelle à la transcendance. C'est le rapport à Dieu. Incorporation de la Torah, les mystères de notre développement, où la loi a sa place pour nous structurer. Mais en dernier ressort, la dernière loi, c'est l'amour, la seule qui assume toute loi. Elle est appel à la justice. Il ne faut pas du tout croire que Marie est quelqu'un de mièvre. Non, son Magnificat, c'est un chant de guerre. Le Dieu puissant a fait pour moi de grandes choses. Il a dispersé les orgueilleux. Il a précipité les puissants de leur trône et élevé les humbles. Il a comblé de bien les affamés et renvoyé les riches les mains vides. Marie nous appelle à une terre de justice, à une terre d'amitié. Pleine de grâce, toute la création se réjouit en toi. La beauté que révèle Marie est celle qui suscite toute communion, disait déjà Denis l'Aréopagite. Et maintenant, c'est un petit cantique d'Angelos. Ô mère, en vérité, j'ai joué avec tous les vents. Mais quand le cyprès s'arrondit comme une tour, que le balancement sacré de la cime m'illumina jusqu'aux racines, ô mère, j'arrivai alors devant toi. Mère de ma terre, bistrée comme son pain sans mélange, puissais-je enfermer ici le parfum qui, plus que tout, a profondément nourri mon âme fière et sobre. Il y a des lieux où seule la poésie peut nous aider, parce que nous sommes bien plus que ce que nous sommes. J'ai nommé la liberté et la terre, je dirais maintenant la femme. Et vous savez que ce mystère de la femme, dans l'humanité et dans l'Église, il est plus important que jamais. C'est une évidence. La modernité occidentale est un prométhéisme, un titanisme, une volonté de puissance pour laquelle la terre n'est pas vie tendue vers l'incarnation et l'Eucharistie, mais un réservoir d'énergie supposé inépuisable est traité et maltraité en conséquence. Par contre, la spiritualité mariale témoigne du mystère de la féminité intérieure. de ce regard de l'âme capable de contempler et donc de respecter les êtres et les choses dans leurs racines célestes. Un regard de non-possession, un regard d'amour désarmé, le regard des doux, ces doux qui pourtant hériteront la terre, disent les Béatitudes, ces doux qui déjà héritent la terre, décèlent la vérité. Le Père, dit la Bible, le Dieu vivant est Rahamim, nous y voilà, miséricordieux. Le mot est le pluriel emphatique de Rem, qui signifie matrice, et toujours en même lieu. Notre Dieu est un Dieu matriciel, comme traduit Chouraki, un Dieu aux entrailles de miséricorde. Il engendre de toute éternité le Fils dans l'amour, pour le faire et nous faire demeurer dans cet amour. Et le prologue de Saint Jean, on y sera demain, et le prologue de Saint Jean évoque le sein du Père. Or, dans l'humanité, qui est à l'image de Dieu, cette capacité de faire demeurer dans l'amour apparaît comme le charisme majeur du féminin. À la paternité divine correspond dans l'humain la maternité de la femme, non pas maternité simplement biologique, ni réservée aux femmes, car en tout être humain, l'âme, par rapport à Dieu, est féminine, mais maternité spirituelle, maternité virginale, dont l'expression et le foyer sont la Mère de Dieu, la Vierge Marie, la nouvelle Ève. Ève vit, au sens d'une vie désormais plus forte que la mort. Cette virginité féconde, toute femme, tout être humain, est appelée à la transcrire dans la chasteté spirituelle. Cette chasteté de la vie longtemps chaotique, devenant enfin intérieure à la personne et à la rencontre des personnes, à la personne pacifiée, pacifiante, en communion. Voilà, un petit intermède d'Olivier Clément. Donc ce mot « Rahamim » se traduit par « tendresse », par « compassion », par « miséricorde », par « pitié ». C'est donc le pluriel de « Raham » qui signifie « entrailles ». Je le disais ce matin, c'est pour ça que ma préférence, c'est le fruit de tes entrailles. Vous voyez ? Parce que c'est le lieu fort, féminin, concret, matériel, où la féminité est engagée. Vous voyez ? C'est pas abstrait. Oui, signifie entrailles maternelles, sein maternel, matrice, utérus. La tendresse dans le langage sémitique n'est donc en premier lieu l'amour qui jaillit des entrailles maternelles. Cri viscéral. Jérémie, on le citait ce matin, crie, mes entrailles rugissent. Cri de souffrance pour celui qu'on aime, c'est la compassion, c'est la miséricorde. Cri d'amour, c'est la tendresse, tendresse maternelle, mais qui n'est pas réservée exclusivement à la mère, elle est aussi tendresse paternelle, filiale, fraternelle, nuptiale. La tendresse est un très grand mystère du cœur de notre Dieu, et il nous faut devenir pauvre, pour entrer dans ce mystère par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint se joint à notre esprit pour proclamer que nous sommes enfants de Dieu. Et notre humanité, elle est vraiment elle-même quand elle est mue par l'Esprit Saint. Alors Marie, le Magnificat auquel Olivier Clément faisait allusion, que chante Marie, Il ne faut jamais que nous l'oublions. Elle est la première sauvée. C'est Thérèse d'Avila, Thérèse de Lisieux, qui a un problème à un moment. Elle se dit quand même, Marie-Madeleine, la pécheresse, elle est aimée, elle est beaucoup aimée. Puis moi qui n'ai pas fait trop de bêtises, qu'est-ce qui va m'arriver? Je serai donc moins aimée. Et puis elle réfléchit. Et puis elle trouve la solution. Elle dit, voilà, c'est vrai, il aurait pu y avoir un caillou au milieu de la route qui me fasse vraiment basculer. Et j'en étais vraiment très capable. Mais, dit-elle, il est passé devant, il a enlevé le caillou et je ne suis pas tombé. Alors, je l'aimerais encore plus que Marie-Madeleine. Dans l'amour, c'est toujours... On a le droit de rivaliser dans une seule chose. Une seule chose, on a le droit de rivaliser. On a le droit de rivaliser en amour. Parce qu'on n'aimera jamais trop, c'est évident. Alors, la première sauvée, il ne faut jamais l'oublier, c'est de par les mérites de Jésus-Christ, l'Immaculée Conception. Elle est sauvée à l'avance pour pouvoir nous donner le Fils de Dieu. Sinon, il n'aurait jamais pu aboutir dans notre chair. C'est ça l'Immaculée Conception. Il y a des gens qui confondent Immaculée Conception et virginité de Marie. Et non, c'est autre chose. C'est beaucoup plus archaïque. Elle naît sans péché. C'est autre chose. Alors que chante-t-elle Marie, la première sauvée, l'Immaculée dans sa conception? Sa miséricorde. Alors on retrouve un autre mot hébreu, hein, c'est hesed, l'amour de Dieu. Eh bien le grec eleos sera ce grec qui va être le parallèle de hesed. Sa miséricorde, on est toujours dans les mêmes registres. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Alors de quelle crainte s'agit-il? Mais ce n'est pas de la crainte qui a peur, non, c'est la crainte filiale. Chaste de l'épouse qui a peur de ne pas avoir ce qu'il faut pour correspondre à son bien-aimé. C'est tout autre chose, c'est dans le registre de l'amour pur. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Elle dira encore dans le verset 54, hein, c'est Luc 1. Il est venu en aide à Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde. Mais déjà cet amour, il est tiré du Premier Testament. Mais la révélation, elle se continue au cours du temps avec le Saint-Esprit qui travaille le cœur humain. C'est-à-dire, elle s'affine dans les âges. À la fois, elle est terminée avec la mort du dernier des apôtres. Elle est comme fixée dans le canon de les Écritures. Mais ce mystère, il se développe d'âge en âge. L'amour de Yahvé, dit le psaume 103, hein, Hesed, le même mot. L'amour de Yahvé pour qui le craint est de toujours à toujours. Et cette crainte de Dieu, il ne faut pas s'y méprendre, hein, c'est ce souci de correspondre à celui qui nous a donné la vie. 98. Se rappelant son amour et sa fidélité pour la maison d'Israël. Ou bien encore Isaïe, « Toi, Israël, tu es mon serviteur. » Zacharie reprendra aussi des expressions semblables. « Ainsi fait-il miséricorde à nos pères. » La meilleure manière de sortir de soi, de sortir de cet enfermement qui nous empoisonne tous continuellement, c'est de s'ouvrir à la louange, comme Zacharie, quand Jean-Baptiste est né. Ainsi fait-il miséricorde à nos pères. La conversion chrétienne, elle est là. Entrer dans la joie de Dieu, s'y tenir et ne plus en sortir. Et il dira un peu plus loin, grâce aux entrailles de miséricorde. Et c'est là qu'on reviendra toujours de notre Dieu. Ces entrailles de miséricorde de Dieu et qui nous sont manifestés par Jésus, le soleil levant, descendu du ciel, pour aboutir dans les entrailles de Marie. Donc, le sein de Marie est le correspondant du sein du Père. On le verra mieux demain avec Saint Jean. C'est très mystérieux. Alors, la tendresse maternelle de Marie pour Jésus. Et cette fois, nous opérons le retour. Jusque-là, c'est l'amour de Dieu qui nous est révélé. Et bien maintenant, ce sera l'amour de la créature pour son créateur, pour son sauveur. Elle enfanta son fils premier-né. Elle enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche. La tendresse maternelle de Marie, qui a été redonnée par Luc, elle l'enfante dans la joie, comme le passage de l'époux. Mystère de la virginité de Marie. Elle est vierge et elle est mère. Mystère. Elle enfante son fils premier-né. Elle l'enveloppe de l'ange. Et déjà, dans cet enveloppement, nos frères orthodoxes savent regarder l'enveloppement du tombeau. C'est mystérieux. Celui qui vient dans le sein de la femme passera aussi dans le sein de la terre, avant de nous être redonnés, ressuscités. Alors Élisabeth, elle ne va pas s'y tromper, la vieille cousine Élisabeth. Ou bien c'est plutôt une autre femme qui dans la foule, Élisabeth, elle, ce sera la foi de Marie qu'elle va magnifier. Mais une femme dans la foule, à un moment, s'exprime, mue par l'Esprit Saint, heureuse des entrailles qui t'ont porté. Et elle entre subitement dans ce mystère de cet amour fort, heureux les saints que tu as sucés. C'est très beau. Notre nature humaine en est régénérée. Une humanité qui est si profanée aujourd'hui, Dieu seul la régénère. En fait, c'est très fort, heureux le creux qui t'a porté, heureux le manque qui a été comblé. Compassion de Marie pour Jésus et compassion de Jésus maintenant, vrai Dieu, vrai homme. Jésus dira au chapitre 6 de Saint Luc, « Montrez-vous compatissant comme votre Père est compatissant. » Pourquoi creusons-nous le mystère de la tendresse de Dieu? Pour devenir les uns pour les autres, tendres comme Dieu. Voyez comme ils s'aiment, c'était la réflexion que les gens faisaient quand ils voyaient les premiers chrétiens. Il faudrait qu'ils fassent toujours cette réflexion quand ils voient aujourd'hui nos communautés chrétiennes. Voyez comme ils s'aiment. Montrez-vous compatissant comme votre Père est compatissant. Le Seigneur est plein de tendresse. Il est miséricordieux. Il est compatissant. Il vous aime. Alors vous, laissez-vous emplir de cet amour et devenez compatissant. Alors cette compassion, elle annonce déjà la croix. Et, mystère. Parce que l'amour n'est pas aimé. Apparemment, on croit aimer l'amour. En fait, l'amour nous fait mourir à nous-mêmes. Et on n'aime pas ça. Et c'est notre misère, de s'approprier les choses, de dominer les choses. Voyez, c'est notre moi égoïste, dominateur, jouisseur. Il est toujours à l'œuvre et il rebondit au moment où on s'y attend pas. Or, pour aimer, il nous faut mourir à nous-mêmes. Et mort à nous-mêmes, alors nous vivrons de l'amour infini de Dieu. Donc, progressivement, cette compassion devant la douleur humaine, cette compassion devant la mort. Jésus, au chapitre 7 de Saint Luc, qui est devant la veuve de Naïm, une femme veuve qui enterre son enfant. Et alors, immédiatement, dans cette grande harmonie des Écritures, il y aura une autre femme veuve qui accompagnera son enfant à la mort. Et quand Jésus voit cette femme veuve de Naïm qui accompagne son enfant à la mort, il ne peut pas ne pas penser à sa mère. Voyez. En la voyant, Le Seigneur eut compassion d'elle, fut remué dans ses entrailles. Alors, toujours la même expression. Ou encore, le bon Samaritain. Chapitre 10 de Saint-Luc. Un Samaritain qui était en voyage arriva auprès de cet homme blessé. Alors, c'est Jésus qui se trouve face à nous, dans toutes nos blessures, dans toutes nos meurtrissures. Que fait-il Jésus? Il ne se sauve pas, non, comme le prêtre et le lévite. Non, il vient. Et comme une maman, il nous prend encore en dessous pour nous soulever avec tendresse, avec compassion. Mais un Samaritain qui était en voyage arrivait auprès de lui. Il fut pris de compassion. Et quelle est notre difficulté? C'est que dès que ça ne va plus, on se croit rejeté de Dieu. Là, le menteur continue son cinéma de mensonge. Vous voyez, déjà, il nous a mis le nez dans la boue, et bien maintenant, il veut appuyer notre tête dans la boue, comme si on était rejeté de Dieu. Alors que c'est exactement le contraire. Dès que Dieu voit son enfant dans la misère, il vole à son secours, parce qu'il n'est que tendresse et bonté. Mais immédiatement, vous voyez la conséquence. Dès que l'humanité est dans la misère, mais les chrétiens volent à son secours, on aurait Mère Teresa, hein, qui n'arrêtait pas. Et cette femme accueillie de toutes les religions. Parce que dès qu'on touche l'homme, homme et femme toujours, à cette profondeur-là, mais tous les cœurs sont saisis. Ça, c'est l'avenir du christianisme. On pourra dire tout ce qu'on voudra demain sur le christianisme. Il a en lui un potentiel d'amour pour révolutionner le monde. Parce qu'il est pris dans les entrailles. Or, l'humanité a besoin d'être accueillie dans sa douleur, dans sa détresse. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva auprès de lui. Le Samaritain, c'est l'étranger, l'étrange, celui qui vient d'ailleurs. Il fut pris de compassion. Il est pris de compassion. Il est saisi aux entrailles. Chaque fois que nous sommes dans la détresse, dans la miséricorde, il faut lever le regard vers Dieu. Et immédiatement, il sera à notre secours. Ce qui faisait dire à la petite Thérèse à nouveau, mais nos pauvres péchés, c'est une goutte d'eau dans un brasier immense. Imaginez une goutte d'eau dans un brasier immense. Ça fait un pip, puis c'est fini. Il ne reste plus rien. Il n'y a que le brasier qui emporte tout. Or, nous n'avons pas du tout conscience de l'amour de Dieu pour nous. Et c'est ce qui nous empoisonne, cette non-conscience, cette non-consistance. Alors que c'est le lieu de notre vie et de la vie la plus belle qui soit. Et Jésus posera la question, lequel s'est montré le prochain de l'autre? Vous voyez, c'est pas tant de m'occuper de moi, c'est encore un enfermement qui m'enferme. La seule manière de sortir, c'est d'aller vers l'autre. Et dès que mon cœur est vers l'autre, immédiatement il est ouvert et Dieu passe. La réponse est belle. On a toujours les réponses, mais il faut la mettre en pratique. C'est plus difficile. On fera la bonne réponse, c'est celui-là qui a exercé la miséricorde. La voilà, envers lui. Alors nous continuons dans la compassion de Jésus pour l'humanité. Luc 19. Quand il fut proche de la ville, Jérusalem. Alors Jérusalem, c'est le symbole de l'épouse. Je vis la Jérusalem céleste, belle, comme une fiancée, parée pour son époux. C'est l'Apocalypse. Eh bien, cette Jérusalem, elle est dans la souffrance, c'est l'humanité. Quand il fut proche à la vue de la ville, Jésus pleura sur elle. Vous voyez ? Autre manière de manifester la tendresse et la compassion, c'est les pleurs. C'est-à-dire, quand le vase se brise, voyez, et que les pleurs jaillissent. Jésus, devant les femmes de Jérusalem, on est déjà dans le chemin de croix au chapitre 23, dira, « Ne pleurez pas sur moi. Il est aimé du Père, il est aimé de Marie, lui qui nous sauve. Mais pleurez sur vous. Pleurez sur vous, parce que si c'est ainsi qu'on traite le bois vert, qu'est-ce qu'on va faire avec le bois sec, voyez ? C'est le salut de notre humanité qui est en jeu. Ce n'est pas seulement pour notre petite dévotion personnelle. c'est que dans le Christ, une chrétienne, un chrétien est responsable de l'humanité entière, dans le Christ. Sinon, il serait complètement sous le poids du fardeau. Alors Jésus, sa tendresse, elle est la tendresse d'un père pour les tout-petits. Jésus, sachant ce qui se discutait dans le cœur des apôtres, qui est le plus grand ? Vous voyez, l'obstacle, hein ? Qui est le plus grand ? Jésus prit un petit enfant. Vous voyez, la manière de nous faire changer de registre, vous voyez, pour entrer dans cette compassion, c'est vrai ? Vous regardez un enfant, vous contemplez un enfant, ça change immédiatement vos disquettes, vous tombez sur un autre registre. Jésus, sachant ce qui se discutait dans leur cœur, prit un petit enfant et le plaça près de lui. Et il dit, « Si vous ne redevenez pas comme ces petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Jésus, devant Pierre, devant le pauvre Pierre qui a renié, fixe son regard sur lui. Et ce n'est pas un regard de jugement. Et Pierre qui dit, mais non Seigneur, ça ne t'arrivera jamais la croix. On est là, on a une épée, on va te défendre. Pauvre Pierre qui par 3 fois renie son maître. Et dans un endroit ciblé à Jérusalem, sur ce petit escalier, il rencontre Jésus à un tournant de rue. Et il est devant le regard de Jésus. Un regard plein de tendresse et de compassion. Et il a le cœur brisé. On dit qu'il a tellement pleuré que des traits s'étaient dessinés sur son visage. La tendresse amoureuse de Jésus, Jésus, le Seigneur, se retournant, fixa son regard sur Pierre. Et Pierre se souvint des paroles de Jésus. « Avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. » Non pas pour l'accuser, mais simplement il le sait. Et il continue à nous aimer. Cette tendresse infinie de Dieu. Cette tendresse, elle se manifeste, vous souvenez, dans cette scène aussi de l'Évangile, où Jésus est accueilli par le pharisien. Et puis, une femme arrive dans la pièce. Et se plaçant par derrière à ses pieds, tout en pleurs, elle se mit à lui arroser les pieds de ses larmes. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers, les oignait de parfums. Le pharisien ne supporte pas. Si cet homme était un prophète, il ne se laisserait vraiment pas faire par cette femme-là en plus. Et vous connaissez la réponse de Jésus. Alors à chaque fois, ce sont toujours ces expressions hein, de la tendresse de Dieu. Pierre, j'ai quelque chose à te dire, tu vois. Je suis rentré chez toi. Tu ne m'as pas lavé les mains. Tu ne m'as pas mis du parfum sur ma tête. Et regarde-la, elle. Voyez. Alors il aura cette réflexion. Hein. Celui qui a été beaucoup aimé, c'est celui-là seul hein, qui peut entrer dans cette tendresse et cette miséricorde. Tu vois cette femme. L'audace de Jésus. Il prend cette femme en modèle. Il a déjà fait ça d'autres fois, nous le savons bien. Tu ne m'as pas donné de baiser. Et il sert du baiser. Hein. C'est le début du cantique des cantiques. Hein. Elle n'a pas cessé de me couvrir les pieds de ses baisers. Et Dieu accueille ces baisers de la femme. Mystère de la tendresse de Dieu, ses nombreux péchés. C'est pas comme si Dieu faisait l'autruche, il le sait bien. Ses nombreux péchés, ils lui sont pardonnés parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on remet peu, montre peu d'amour. C'est toujours cet amour infini de Dieu qui est manifesté. Et il dira à la femme, tes péchés sont pardonnés. Va, ta foi t'a sauvée. Et je peux vous dire que, ayant rencontré Jésus, la vie de cette femme est fondamentalement changée. Parce qu'on ne veut pas rencontrer le véritable amour et ne pas changer. Seule cette tendresse et cet amour infini de Dieu, seul cet amour nous convertit. Tant qu'on n'a pas rencontré cet amour, je crois qu'on n'est pas converti. C'est seulement cet amour qui nous retourne, qui change notre vie. C'est pour ça que c'est tellement important pour nous. Le bon pasteur, voyez, toutes les pages de l'Évangile sont truffées de cet amour infini de Dieu. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis, et veut à en perdre une, Luc 15, 4, n'abandonne les 99 autres dans le désert pour s'en aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. Vous voyez, cet acharnement de Dieu pour notre humanité. Alors on a toujours des préfigurations qui sont tellement belles. C'est David, je crois que c'est David. Alors c'est le petit berger qui court après le lion qui a emporté sa petite brebis. Alors il dit, je cours jusqu'à ce que je l'ai rattrapé. Et quand je l'ai rattrapé, je lui écarte les mâchoires et je retire ma petite brebis. Vous voyez, c'est une image de Dieu dont l'amour a été bafoué par le menteur et qui va rechercher sa petite créature jusque dans ses griffes. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et vint à en perdre une, n'abandonne les 99 autres dans le désert pour s'en aller après celle qui est perdue. Et on va revenir au fils prodigue après. Jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvé. Vous voyez, Dieu est un Dieu inconsolable tant qu'une de ses petites brebis est perdue. Et ça, c'est Dieu. Alors, en ça, Rachel en a une préfiguration. Elle qui pleure parce que ses enfants ne sont plus. Et quand il l'a retrouvée, est-ce qu'il lui fait des remontrances? Mais pas du tout. Il la met tout joyeux sur ses épaules. Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée. Ma brebis qui est perdue. Ma brebis qui est perdue. Jésus ira jusqu'à ce lieu de la nuit la plus noire. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans ce lieu le plus noir où le rejet de Dieu sera là, comme on le disait ce matin à l'homélie, pour à tout prix nous sauver. Et là, dans son amour, eh bien, il essaiera de nous attirer à lui, toujours. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ce sens fort des épousailles, de connaître l'autre. Or, le connaître, c'est vraiment entrer dans sa vie la plus intime. La tendresse miséricordieuse de notre Père. Mystérieusement, c'était l'Évangile de ce matin. Quand ce garçon, rentrant alors en lui-même, pas parce qu'il a envie d'aller voir son père, simplement parce qu'il a faim. Mais ça n'a pas d'importance. Vous voyez, quelquefois on dira, oui, mais quand même, c'est pas tout à fait très noble ma manière d'aller vers le bon Dieu, c'est utilisateur, je ne sais pas quoi. Ça n'a pas d'importance, pourvu qu'il revienne. C'est son retour qui compte. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Mais le père n'entend pas ça. Vite, dit-il, allez chercher le veau gras. Vite. Donc cette compassion de Dieu manifestée en Jésus-Christ, tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut. Il fut touché de compassion, voyez, remué dans les entrailles, au plus profond de lui-même. Il est là, son fils. Tout le reste n'a plus d'importance. Il est là. Il court. Il se jette à son cou et il le couvre de baisers. Il l'embrasse tendrement. Et en fait, c'est la seule guérison possible. Il n'y a pas d'autre guérison, il n'y a que celle-là. Ce miséricorde de Dieu, mon fils qui était mort est revenu à la vie. On a oublié le sens de l'adoration, c'est-à-dire on a oublié le sens que notre vie dépend de Dieu. En lui, nous avons le mouvement, la vie et l'être. Pour quantité de raisons, il faut être autonome, il faut savoir faire soi-même. Et c'est pas mauvais en soi, c'est vrai. Mais à la condition qu'on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Bien sûr qu'on a tous à grandir, on est d'accord, faut pas rester infantile. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais si on jette le bébé avec l'eau du bain, la belle affaire, il reste plus rien du tout. Voyez. Mon fils que voici était mort. Parce qu'il avait perdu ce lieu de la filiation, ce lien d'amour. Il est revenu à la vie, simplement parce qu'il est en train de se remettre en lien avec le Père. J'irai vers mon Père. Il était perdu. C'est très mystérieux, ça. Et il est retrouvé. Et puis quand il verra le fils aîné, mais c'est ton frère. Ce chapitre 15 de Saint-Luc, il est inépuisable. Simplement, c'est ton fils. Et bien, le père dira, c'est ton frère. Et qu'as-tu fait de ton frère? Parce que c'est la même compassion que Dieu nous porte, qu'il veut voir dans notre cœur. Saint Paul, qui a compris ce mystère de l'amour infini de Dieu, dira, je fléchis les genoux en présence du Père de qui toute paternité au ciel et sur terre tire son nom. Et ne donner à personne le nom de Père, mais oui, simplement à ceux qui sont Père dans le Père. Et un enfant qui dit « Papa », avec cette confiance immense, il est déjà symbole, signification de celui qui se tourne vers son Père dans une confiance infinie. Je fléchis les genoux en présence du Père de qui toute paternité au ciel et sur terre tire son nom. Mais on pourrait dire la même chose de la maternité. Et, la femme. Oh, je termine avec cette petite image qui est tellement belle. Celle est du Premier Testament. On demande à David d'être juge entre deux femmes dont pour l'une l'enfant serait mort. Il ne resterait donc plus qu'une femme avec son enfant. Elles sont en train de se déchirer, en train de se dire « c'est mon enfant qui est vivant, c'est le tien qui est mort ». Alors David se trouve là devant cette... C'est Salomon, tu as raison. Voilà, alors Salomon se trouve, alors il dit « très bien ». D'accord, je vois que vous ne pouvez pas vous mettre d'accord. Apportez-moi l'enfant, je vous le coupe en deux. Ah, surtout pas, dit la femme dont était la mère. Et ses entrailles qui bondissent, ne le tuez pas, je préfère que l'autre le prenne. Mais ne lui donnez pas la mort. Elle dit, ben, c'est toi la mère. Et c'est toi cet homme, c'est toi cette femme. Alors demandons que les entrailles de miséricorde du cœur de notre Dieu nous saisissent de plus en plus. Et nous allons avoir besoin en famille. En famille, il faut nous aimer de cet amour-là. Nos enfants aujourd'hui, pourquoi hurlent-ils dans la rue? Pourquoi se font-ils éclater avec toutes sortes de choses? C'est parce qu'il n'y a plus d'amour. Pourquoi les enfants tuent? Mais il n'y a plus d'amour. Le seul remède, c'est Dieu. Parce que Dieu est amour. Mais ça, ce sera pour demain matin. C'est Saint Jean qui le dit de cette manière. Alors, profitons bien de ce petit temps et laissons-nous toucher par l'amour infini de Dieu. Revenez, moi je ne fais qu'évoquer, je ne peux pas faire autrement. Voyez, revenez à ces lieux. Laissez-vous prendre par cette tendresse infinie de Dieu. Il suffit d'aimer, c'était la petite Bernadette qui avait tout compris. Il suffit d'aimer. On n'a pas autre chose à faire sur cette terre que d'aimer. Et il faut le faire. Parce que quand on va arriver au ciel, ce sera le royaume de l'amour. Alors si on ne s'y est pas préparé, et si on y est prêt, on entrera directement dans le cœur de notre Père.
Mm-hmm.